France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Hi, Dolly. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les momies que nous avons l'honneur de soumettre à l'examen de la Société d'anthropologie de Paris ont été trouvées dans les environs des ruines d'anciennes habitations, situées sur la pente d'une montagne appelée Piedra Grande, province de Chachapoya, au Pérou, à une altitude d'environ 2000 mètres. C'est par ces mots que l'explorateur et naturaliste Paul Vidal Senez présentait sa découverte en 1877. Deux ans plus tard, elle rejoignait les momies égyptiennes du musée d'ethnographie du Trocadéro et lors de l'ouverture du musée de l'Homme en 1937, l'Homme Chachapoya était l'une des vedettes des collections. Mais comment faire collection de restes humains? Et comment se tenir aujourd'hui face à ce corps recroquevillé et parcheminé, les jambes repliées sous le menton, les mains serrant ses joues creuses et le vide de ses yeux et son cri terrible et silencieux? Il est seul, il est nu, et nous sommes si nombreux. Mais à le regarder, soudain on comprend. La momie ne dit pas l'ailleurs, de l'enfance ou du lointain. Non, elle dit simplement l'humaine condition. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on comprend en allant visiter l'extraordinaire exposition Momie qui se tient au Musée de l'Homme à Paris jusqu'au 25 mai. On y présente des corps humains momifiés qui, nous prévient un cartel, peuvent susciter des émotions diverses. Et c'est bien dit, c'est exactement cela. Alors, allons y voir, en compagnie d'Aline Thomas et Pascal Cellier, bientôt rejointe par notre sociétaire du jour, Julia Puma. Et parmi ces émotions diverses, il y a cette excitation et cette peur enfantine. Vous vous souvenez du terrifiant Raskar Kapak dans l'album de Tintin, Les 7 boules de cristal?
L'expédition ethnographique Sanders Hartmut vient de rentrer en Europe après un long et fructueux voyage de 2 ans au Pérou et en Bolivie. Les explorateurs ont traversé des territoires fort peu connus où ils ont découvert plusieurs tombeaux incas. Dans l'un d'eux se trouvait une momie encore coiffée du borla, ou diadème royal, en or massif. Certaines inscriptions funéraires ont permis d'établir avec certitude qu'il s'agissait de l'Inca Raskar Kapak.
Ça finira mal, cette histoire, vous verrez.
Quoi? Qu'est-ce qui finira mal?
Eh bien, cette histoire de momie. Souvenez-vous de Toutankhamon, jeune homme. Songez à tous les égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert le tombeau de ce pharaon. Vous verrez. La même chose arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de cet Inca.
Vous croyez?
J'en suis sûr. Aussi, pourquoi ne laisse-t-on pas ces gens tranquilles? Que dirions-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois? Que dirions-nous?
Que dirions-nous, en effet? Bonjour Pascal Cellier.
Bonjour.
Vous êtes médecin et anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Votre spécialité, c'est l'archéologie de la mort et des pratiques funéraires. Vous avez conduit plusieurs chantiers de fouilles, notamment au Pakistan, au Soudan, aux îles Marquises. Vous avez étudié l'archéologie de la lèpre en Polynésie française et vous travaillez actuellement à un projet visant à la collection systématique d'échantillons humains archéologiques à vocation paléogénétique. Avec Héloïse Quettel, vous avez assuré le commissariat scientifique de l'exposition du Musée de l'Homme et la direction scientifique de son catalogue « Momies, mémoires révélées ». C'est presque une exposition à contre-courant parce que aujourd'hui, il y a des musées qui n'exposent plus les restes humains. Et vous, vous faites l'inverse. Vous les montrez et vous montrez leur universalité et vous les réhumanisez, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce qu'on a voulu faire et on a voulu d'une certaine façon aller, on va dire, au-devant de cette question. Comment on peut-on exposer des restes humains? Comment peut-on le faire? Doit-on le faire? Et j'espère que
sans sensationnalisme. Oh, j'aurais jamais dû me lancer.
Sans sensationnalisme.
Exactement.
Oui, absolument. Et sans mise en scène.
Sans mise en scène.
Voilà, oui.
Et quelles sont les, ça m'intéresse de savoir quelles sont les réactions, en fait, des visiteuses et des visiteurs.
Ben, de ce qu'on a vu, alors, il y a une espèce d'urne pour recueillir l'avis des visiteurs sur cette question précise. C'est pas le livre d'or habituel de l'exposition. C'est plus sur cette question de l'exposition des restes humains. Donc c'est en train d'être analysé par les services de la com. Mais enfin, de ce que j'ai vu aussi en visitant l'expo, etc., et des réactions aussi de la presse et ainsi de suite, et des médias, c'est plutôt bien accueilli.
Votre geste est compris. Ouais. Oui. Aline Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéo-anthropologue, maîtresse de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle et responsable scientifique de la collection de momies conservées au Musée de l'Homme. Vos recherches portent sur l'organisation des sociétés néolithiques, notamment dans une perspective de genre, une société patriarcale néolithique, point d'interrogation. C'est le titre d'un de vos articles. Et vous vous interrogez aussi sur les enjeux éthiques de la conservation des restes humains et êtes la co-autrice d'une importante étude sur l'homme Chachapoya, parue en 2021 dans un volume intitulé « Les collections naturalistes dans la science du 21e siècle ». C'est extraordinaire parce que à vous lire, on comprend que voilà, la momie, c'est... On va le saisir ensemble, quelque chose de beaucoup plus universel qu'on le croit. Mais enfin là, vous êtes anthropologue des sociétés andines et ça nous dit tellement de choses aussi, non seulement sur les pratiques funéraires, mais sur la société.
Oui. Alors, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un corps momifié, on a plutôt l'habitude de s'intéresser à des restes squelettiques.
Oui.
C'est plutôt rare d'avoir affaire à des corps momifiés, mais c'est une véritable archive des populations anciennes qui nous dit, d'une part, tout un champ des pratiques mortuaires, comment ces individus ont été traités après leur décès par les populations. Et notre enquête est de savoir pour quelles raisons tel individu est traité de cette manière et pas de celle-ci. Donc ça permet un peu de voir comment socialement ça fonctionne. Mais aussi sur le plan individuel, sanitaire, ça nous informe sur beaucoup de choses.
Parce qu'avant de regarder l'homme Chachapoya tel qu'il est dans sa vitrine depuis 1879, il faut revenir sur la découverte. Donc nous sommes à flanc de montagne, à 2 mètres environ. Donc c'est
2000 mètres.
Oui, 2000 mètres, bien sûr, du niveau de la mer. Mais les sarcophages sont en hauteur, c'est-à-dire à vue, en fait.
Absolument. Ils nous regardent autant qu'on les perçoit. C'est sans doute un enjeu social pour les Chachapoya que de placer ces sarcophages à cet endroit. C'est un endroit exclusivement dédié aux morts,
hein,
à distance des habitations. Donc oui, il y a un enjeu de visibilité.
Alors nous, on dit que c'est une civilisation pré-colombienne, mais en fait, c'est une civilisation pré-Inca, hein, c'est ça.
Absolument.
C'est-à-dire que les Chachapoya, c'est avant l'intégration de l'État Inca.
Ils se font annexer.
Enfin, ils sont à la périphérie des Incas, et ils vont finir quand même par se faire annexer par les Incas, juste avant l'arrivée des Espagnols.
On est au nord du Pérou.
On est au nord du Pérou.
Et donc, pour vous, voir ce que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire ce corps recroquevillé, il faut l'enlever d'abord de ce sarcophage qui est lui-même anthropomorphe et puis aussi le dépaqueter, hein, c'est
oui,
ça parce
qu'il est dans un, oui, il est dans ce qu'on appelle un paquet funéraire, un fardeau en espagnol, qu'il enveloppe complètement, donc avec énormément de couches de tissu et une série de cordages qui maintiennent ce paquet. Et donc, il faut, donc, le découvreur a effectivement, on va dire, laissé tomber tout ça, et le sarcophage et le paquet funéraire pour ne conserver que le corps lui-même.
Pourquoi est-il recroquevillé?
C'est une façon de... il est empaqueté de façon à ce que ça prenne le moins de place possible. Alors c'est vrai que parfois on dit position fœtale, etc. Mais je doute fort que les Chachapoya aient une vision de la position du fœtus dans le corps de la mère. Donc c'est une façon de compacter le corps au maximum. Ça contribue aussi à la momification dans la mesure où ce compactage et l'emballage va absorber l'humidité et favoriser la dessiccation.
Et ce qu'on voit à Aline Thomas, c'est l'empreinte sur la peau jaune des tissus.
Des tissus. Oui. On voit la trame, oui.
On a certains paquets qui ont été conservés. Hein. Certains sont encore conservés aujourd'hui.
Il y a un paquet de Chachapoya dans la collection.
Qui provient du Quai Branly,
Non, qui est des recherches de Reichlein. Ouais.
Et l'enveloppe a été retirée, effectivement, on garde clairement la trace sur sa peau. C'est comme un tatouage en relief, un petit peu.
Il y avait aussi ce que Paul Vidal-Sanel a enlevé, un sac. Qui était sur sa droite.
Oui, absolument.
Oui, qui est conservé, mais il a été conservé à part. Donc on a des photos anciennes où on voit bien le sac sur le côté, qui est suspendu à la corde, qui maintient dans sa position recroquevillée. Et on a retrouvé dans nos collections qu'un fragment de ce sac.
Et qu'est-ce qu'on retrouve à côté aussi, pardon, avant de le regarder de manière plus intense, Aline Thomas, un peu de céramique, mais très peu finalement par rapport à l'idée qu'on peut se faire de son rang social.
Oui, en fait, globalement, dans toutes les pratiques funéraires chachapoya, y compris autres que la momification, les dépôts sont rarement accompagnés de mobilier. Pierre Vidal-Sénez évoque quelques céramiques. C'est difficile de comprendre si c'est effectivement directement associé à ce défunt, mais donc très très peu d'objets.
Oui. Alors, ce qui est intéressant dans cette question, au fond, de ce face-à-face avec la mort, c'est que c'est un face-à-face avec la science, on va le comprendre, mais aussi inévitablement avec l'imaginaire et un imaginaire enfantin. On a commencé avec Raskar Kapak, écoutez ce documentaire de Frédéric Cordier, c'était sur Arte 2019, Tintin et le mystère de la momie Raskar Kapak.
Ça, c'est la momie donc AAM 5939, qui est son numéro d'inventaire ici, dans le musée.
C'est la vraie momie que Hergé s'est inspirée pour les 7 boules de cristal.
Oui, c'est celle-là, c'est celle que tu vois ici. Alors, il y a évidemment des différences par rapport à ce qu'il y a dans la bande dessinée, évidemment, parce que Hergé a quand même créé une momie en lui mettant une coiffe, en lui mettant des vêtements, mais c'est bien celle-là qui l'a inspirée.
Mais vous n'avez pas peur que la foudre vous tombe dessus pendant la recherche ?
Écoute, je ne suis pas tellement superstitieux, mais c'est vrai que depuis 2 ans que je travaille sur cette momie, il y a eu plusieurs incidents, comme un incendie dans un train, la foudre qui est tombée chez un ami, et plusieurs fois des gens malades, mais c'est peut-être que le hasard. Je ne sais pas si la malédiction de Raskar Kapak existe vraiment.
Mais vous pouvez un peu m'expliquer, s'il vous plaît, ce que consiste le métier d'archéologue ?
Alors, c'est assez long, c'est compliqué. Il y a plusieurs types d'archéologues. Il y a des archéologues que tu vas voir sur le terrain qui vont faire des fouilles, d'autres archéologues qui vont plutôt travailler sur les objets de musée. Ici, c'est un peu les deux, puisque à partir de cette momie qui se trouve dans un musée, on a essayé de retrouver son origine. Et donc, on a été faire des différentes études dans les hôpitaux. On a fait des scanners, on a fait des prélèvements pour l'étudier. Mais on est aussi retourné au Chili, au Pérou, pour mieux étudier cette momie.
Ben voilà, c'est ça que vous avez fait aussi, Aline Thomas. Vous avez fait des scanners, vous avez été au Pérou, et vous avez fait de cette momie un lieu d'expérimentation scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
D'expérimentation collective, oui. Qui a fait intervenir beaucoup de spécialistes, chacun dans sa discipline. On a fait un scanner pour procéder à une autopsie virtuelle. Donc ça, c'est un outil extraordinaire pour les momies qui sont fragiles, qu'on peut pas facilement manipulés, ça nous permet de les voir sous tous les angles et de les voir à l'intérieur.
Et là, il y a une première surprise, c'est-à-dire que l'homme Chachapoya n'a pas été éviscéré.
Alors, en tout cas, pas complètement. Parce qu'il y a une partie du bas de l'abdomen qu'on n'arrive pas bien à identifier. Possiblement, les intestins ont été retirés, on n'arrive pas à l'identifier. Mais le cœur, les poumons, le foie restent présents. Donc on n'a pas une éviscération totale.
Et puis ce qui est fascinant aussi dans cette recherche collective, c'est qu'on comprend beaucoup mieux aussi la technique et peut-être le sens de la trépanation. Parce que il y a un trou qui a été foré par sans doute une sorte de chignole, enfin une différente, et le cerveau n'est plus là.
Lors de la découverte, ça, l'explorateur le dit bien, plus de cerveau dans ce crâne qu'on peut observer par ce trou béant, cette trépanation crânienne sur le côté du crâne. Et il évoque une éponge remplie d'antiseptiques, donc on suppose que c'est quelque chose qui a justement remplacé le crâne dans cette démarche d'embaumement. Et donc, avec nos collègues, c'est avec un collègue Christophe Bou qui s'est intéressé à la technique de cette trépanation et qui a procédé à des expérimentations sur des crânes actuels pour refaire exactement la même ouverture, effectivement avec plusieurs perforations d'un centimètre de diamètre confluente, jusqu'à prélever un volet osseux d'environ 5 centimètres de diamètre.
Trépanation post-mortem, hein, on est bien d'accord.
Alors oui, on peut. Alors, il existe, hein, dans ces mêmes populations des cas de trépanation antémortem. On peut l'affirmer. On a des cas de cicatrisation, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ici, on est clairement dans un cas de trépanation post-mortem qu'on rallie directement au geste de l'embaumement et de la préparation du corps.
Et si je vous ai bien lu, Aline Thomas, on comprend que, voilà, avec ce scanner qui permet une autopsie virtuelle, on retrouve une partie des viscères et on se pose la question de savoir si en réalité les momies, quel que soit d'ailleurs le contexte culturel, ne sont pas elles-mêmes plus pleines qu'on le pense. Enfin, en tout cas, l'éviscération n'est peut-être pas la norme dans la momification.
Non, certains témoignages d'autres collègues parlent d'une éviscération complète avec bourrage de coton, etc. Et dans ce cas, ça semble être plus partiel.
Il y a une grande variété, hein,
oui,
c'est lié de toute façon, des techniques.
On connaît des momifications, on va dire complètement naturelles, sans éviscération. Sans intervention sur le corps. Il y a parfois des interventions sur, on va dire, l'environnement pour favoriser la dessiccation.
Avec également cette position reproduite, mais on en voit, il y a des photos extraordinaires,
il y a par
corps qui sont boucanés. Hein.
Ah oui, alors boucanés, ça s'est séché sur le feu.
Oui.
Mais moi, je pensais aux momies du désert du Taklamakan en Chine, qui sont... C'est entièrement naturel, elles sont conservées de façon incroyable. Donc c'est l'âge du bronze, c'est autour de 2000 avant, quelque chose comme ça. Mais les gens interviennent pour faire un coffre en... Ils sont dans un coffre en bois, mais qui n'a pas de fond, pour que le sable, puisque c'est un désert, puisse absorber les liquides de décomposition. Et en revanche, il y a une couverture hermétique avec un couvercle en bois et des peaux de bovidés qui sont mouillées pour qu'en se rétractant, ça crée ce côté hermétique du cercueil et donc ça favorise la dessiccation.
Alors on peut regarder ainsi les corps momifiés avec un regard scientifique, mais ce regard scientifique guidé par ces questions d'enfants qu'on entendait dans ce reportage d'Arte. Évidemment, il pose la question de l'imaginaire. Alors, le fin de mot de l'histoire sur Tintin et cette boule de cristal, c'est quoi?
Alors d'abord, il y a une question qui est intéressante, c'est que on ne connaît pas de momie Inca.
Oui. Quand Hergé dit Inca, en fait, c'est Chachapoya. D'autres cultures andines.
On connaît les Espagnols ont décrit des momies Inca, il y a même des dessins, etc., mais on n'en a pas trouvé. Donc ça, c'est un peu amusant, on va dire. Donc là, Hergé a plaqué des bijoux Inca par-dessus cette momie. Et effectivement, quand on compare la momie elle-même et aussi l'illustration dans le Larousse universel, puisque Hergé travaillait beaucoup à partir de documentation et très peu à partir des objets eux-mêmes, on voit qu'il y a une ressemblance vraiment très frappante entre la gravure du Larousse de Chachapoya, qui figure à l'article Pérou, et puis notre momie, on va dire.
Et voilà. Évidemment, ce que prend en charge l'exposition momie du Musée de l'Homme, c'est aussi justement ce regard porté depuis la fin du 19e siècle, avec plus d'intensité peut-être encore dans les années 20 et 30. Écoutez le poème d'Antonin Artaud, Invocation à la momie, 1925, lu par Clément Hervieux-Léger en 2013 sur France Culture.
Invocation à la momie. Ces narines d'os et de peau par où commencent les ténèbres de l'absolu et la peinture de ses lèvres que tu fermes comme un rideau, et cet or que te glisse en rêve la vie qui te dépouille d'os, et les fleurs de ce regard faux par où tu rejoins la lumière. Momie, et ces mains de fuseau pour te retourner les entrailles, ces mains où l'ombre épouvantable prend la figure d'un oiseau, tout cela dont s'orne la mort comme d'un rite aléatoire, ce papotage d'ombre, et l'or où nagent tes entrailles noires. C'est par là que je te rejoins, par la route calcinée des veines, et ton or est, comme ma peine, le pire et le plus sûr témoin.
Ce regard contemporain, il est inévitable, In Thomas, parce que il y a quand même quelque chose, même si on refuse le pathétique muséographique, il y a quand même quelque chose qui nous regarde inévitablement avec l'homme Chachapoya.
Et qui inspire, qui, oui. est, donc, qui génère des émotions, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, et qui inspire au-delà des sciences naturelles, qui inspire des peintres, qui inspire nos contemporains dans leurs œuvres.
Oui, alors il y a des inspirations qui sont documentées, celle de Gauguin, par exemple, puisque effectivement...
Oui, là on a un carnet de dessins.
On a un carnet de dessins. Oui, et il y a des inspirations qui sont supposées, avec d'ailleurs une sorte de récurrence, de permanence historiographique qui m'étonne. C'est notamment l'idée que Edouard Munch aurait vu cet homme Chachapoya et en aurait... eu la vision du cri.
Oui, oui, oui. C'est... Alors, ce qu'on sait, c'est que Munch est à Paris en 1889 pour l'exposition universelle.
Oui.
Donc,
il peut
au
avoir
pied
vu...
du musée d'ethnographie du Trocadéro où est exposé l'homme Chachapoya. Voilà. Mais Munch n'a jamais dit « je suis allé voir Chachapoya » et voilà.
Et pourtant, voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment aussi le je dirais la projection de nos affects.
Bah, bien sûr. Parce que, bien sûr.
Voilà, l'homme Chachapoya, comme d'autres, il a la bouche ouverte parce que la mandibule tombe, parce que les chairs se rétractent, etc. Mais voilà, il crie pas.
Ce qui pose la question, effectivement, Aline Tomac, qui est des émotions contradictoires. C'est pour ça que je lisais avec beaucoup d'admiration ce cartel, parce qu'il dit tout, au fond, de notre rapport qui est là un rapport à la mort, et qui n'est pas nécessairement celui de notre culture, qui peut être celui de notre âge, ou celui de notre situation, ou celui du moment où on visite cette exposition. Ça peut tomber mal, au fond. Et donc, c'est sur cette variété d'émotions qu'on travaille également.
Absolument. Ce rapport à la mort et au corps, et la manière d'appréhender cette exposition, elle est individuelle. Chacun doit... y accéder, y aller avec ses propres bagages.
Et sur le plan muséographique, Pascal Sellier, vous avez effectivement tenté de, au fond, de respecter cette possibilité d'aller voir ou de ne pas y aller voir.
Oui, absolument.
On peut faire les deux. Oui. Il y a des rideaux.
À la fois, les corps momifiés sont exposés dans des grandes vitrines spécifiques qui sont au centre d'un espace, et la face par laquelle on aborde la vitrine comporte un voile un peu translucide mais pas trop, qui fait que voilà, on peut se préparer à cette rencontre, on peut choisir de ne pas y aller.
Oui.
Voilà, donc il y a une sorte de
il y a des photos impressionnantes aussi, des photos ethnographiques impressionnantes, je pense, notamment toujours dans les sociétés andines. On comprend d'ailleurs que ça peut être une momification temporaire, des individus qui tiennent dans leurs mains, dans leurs bras, ces corps recroquevillés.
Ah oui, je pense. Oui.
Thomas.
Oui, non, je pense. C'est plutôt une photo des Indiens d'Amérique du Nord,
une
photo de Curtis, je pense. Oui, où on voit quelqu'un qui porte une momie. Oui.
Les photographies ont été justement toujours dans la scénographie. Elles sont présentées dans un format pas trop important
oui.
pour que on puisse aussi choisir d'aller les voir, de se rapprocher. Voilà.
La bandelette et l'habillage Question ficelle et petite tenue, c'est de l'érotisme en sarcophage. Les momies sont des mamicons, jettent à outrance en pâturage. Un peu de tenue, un peu de prestance, veuillez respecter le personnage. Mesdames et messieurs, approchez donc, v'là l'élixir d'Akhenaton. La petite fiole au grand présage, c'est un peu fort, mais allez-donc.
Jane Forty, Mommy Blue. Nous parlons donc de cette exposition au Musée de l'Homme, Les Momies, Mémoires révélées, tel est le titre du tech catalogue que vous avez co-dirigé, Pascal Cellier. Une des surprises de cette exposition, c'est d'une certaine manière qu'elle nous dépayse pas comme on l'imagine, mais en comprenant, nous faisons voir que il ne s'agit pas seulement d'Égyptiens et de Péruviens ou d'Américains, il y a des Européens, et beaucoup, et jusqu'au XXe siècle, et d'une certaine manière, si la momification perdure dans les sociétés européennes et surtout dans les sociétés aristocratiques, alors on connaît évidemment les catacombes de Sicile, de Palerme, mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres.
Oui, il y en a d'autres. Donc effectivement, c'est par exemple une pratique aristocratique très très courante, on va dire, en Europe occidentale, avec souvent une ce qu'on appelle une tripartition du corps. Donc pour la momification, mais pas que, on enlève le cœur, on enlève les entrailles et on multiplie les funérailles. On va faire des sépultures de cœur, des sépultures d'entrailles. Et après, la sépulture, on va dire principale, mais qui n'est pas spécialement principale, parce que pour chacun de ces éléments, il va y avoir effectivement des funérailles complètes, et puis une véritable tombe dans des endroits différents pour multiplier les signes dynastiques, les signes de pouvoir.
La jeune fille de Strasbourg, par exemple, qui orne la couverture du catalogue. Ou en tout cas,
alors, la jeune fille de Strasbourg...
Est oui. Très impressionnante. Hein.
Oui, elle est... Elle avait aussi impressionné Victor Hugo en 1942, oui. Quand il l'a vue. Il disait que ça ressemblait à la petite poupée de la mort. Parce qu'elle est dans une très jolie robe avec ses souliers neufs sur un fond de lin blanc, etc. Et alors elle, c'est une aristocrate protestante, probablement allemande. Mais elle a été momifiée pas seulement pour ses raisons, on va dire, aristocratiques, mais aussi pour être transportée, pour être inhumée en fait plus tard.
À quel moment ?
Elle est morte, alors on ne sait pas exactement qui elle est morte entre 1620 et 1640. D'après le style de sa robe et un certain nombre d'autres indications, aussi la datation du cercueil. Et c'était pendant la guerre de 30 ans, il y a eu une série d'épidémies, etc. Et visiblement, elle s'est retrouvée, on va dire, coincée à Strasbourg et elle n'a jamais bénéficié des funérailles définitives qu'elle aurait dû avoir dans son pays plus tard.
Et puis il y a aussi une autre... très impressionnante momie, celle du garçon des martres d'Artières en Auvergne. Là, on est plutôt au bas empire. On comprend très bien aussi ce que vous avez voulu faire, Aline Thomas, quand je disais réhumaniser. C'est sérieux. C'est-à-dire, ça veut dire d'abord considérer les individus, d'abord les présenter, simplement. C'est un travail de connaissance et de reconnaissance avec des cartels et on dit tout ce qu'on sait d'eux.
Voilà, une sorte de carte d'identité.
Voilà, c'est ça. Oui, nous, on dit pas que c'est un cartel, ouais. On appelle ça une fiche d'identité pour que, justement, on retrouve à la fois la personne elle-même, donc qui elle est, son âge, etc. Ensuite, quelque chose sur les pratiques de momification et aussi comment elle a été découverte. Mmh. On a essayé d'être assez transparent là-dessus. Mission officielle ou pas, autorisation ou pas du pays d'exporter les corps et ainsi de suite. Et enfin, le parcours muséal, donc comment, d'une certaine façon, elle est arrivée dans nos collections.
En assumant un peu aussi les vides. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même niveau d'information. Pour chaque momie.
Par exemple, l'homme Chachapoyac, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? C'est quoi sa carte d'identité ? Ça, vous
l'homme
en savez un peu plus.
Ouais.
Un peu plus.
C'est peut-être l'une des momies les mieux, on va dire, comprises sur le plan de son identité. Donc, on sait qu'il s'agit d'un homme, d'un jeune adulte qui a
20-30 ans.
20-30 ans. qui
assez grand,
qui est assez grand et qui correspond. Donc ça, on l'a évalué sur en mesurant ses ossements et ça correspond un peu aux chroniques qu'on connaît sur les Chachapoyas, qui évoquent un peuple quand même de grande taille. Donc sur le plan biologique, étant jeune, il n'a pas peu de maladies acquises, en tout cas sur le squelette, il n'a pas d'arthrose, etc. Il a quelques caries. Mais ce qui a été très, très surprenant et intéressant, c'est grâce aux analyses de scanner, on a pu identifier une calcification au niveau des poumons qui est évocatrice de
une infection pulmonaire,
qui
est tuberculose.
Peut-être la tuberculose. On n'en a pas, c'est évidemment un diagnostic pas définitif. Ça peut expliquer aussi la cause du DCM, on n'en est pas certain. Et par ailleurs, on a poursuivi les investigations grâce à un archéo-entomologue, Jean-Bernard Ruchet, qui s'intéresse aux insectes sur le défunt, qui permet d'identifier, de calculer le temps qui s'est écoulé entre le décès de l'individu et son emballage. Mmh. Voilà, donc on sait que ces gestes se sont faits en quelques jours.
Alors, vous parliez effectivement des conditions de la patrimonialisation. Écoutez cet extrait du journal de France 3 Normandie sur une vente de momies à Honfleur en 1972.
Nous présentons une tête de momie. Une tête de momie dans un très rare état de conservation, avec sa chevelure toute bouclée, 3 dents encore. Et nous débutons à 800 francs. 800 francs preneur. Il est très rare de trouver des pièces dans cet état, n'est-ce pas, de conservation. Même au musée du Caire, elles sont très abîmées. 700 si vous voulez, oui. Ou on peut commencer à 700. Alors 750 par mois.
750. Le juge suivait à 750.
760.
760.
10.
10. C'est 8 ans. Le juge s'est levé à 770.
C'est rare ici, mais ça vaut bien au-dessus.
775. C'est le juge.
Allez, adjuger, c'est rare ici, on n'a jamais vu ça, mais on est bien obligé de se poser aussi la question, Aline Thomas, vous avez écrit aussi là-dessus, sur les enjeux éthiques et juridiques. D'ailleurs, il y a une loi du 26 décembre 2023 qui ordonne la restitution des restes humains, donc c'est compliqué quand même. Comment on fait
Alors, cette ordonnance, c'est uniquement si... il y a une démarche diplomatique et que le Conseil d'État est saisi. Dans ce cas-là, le muséum, en tant que conservateur, responsable de conservation de ces restes humains, va se mettre à disposition pour, en particulier, faire des analyses d'archives.
Oui, voilà, c'est ça
notre rôle.
La question, c'est de la provenance.
Voilà,
on documente.
Exactement. Nous, si on est saisi par le Conseil d'État, et c'est le Conseil d'État qui va trancher. En dehors de ces questions de restitution, notre rôle, c'est de conserver dans des conditions éthiques, respectant la dignité humaine. Voilà, c'est ce qui dirige notre métier du quotidien.
Et vous, en tant que directrice des collections des momies, c'est ce que vous faites et c'est ce que donne à voir aussi, Pascal Cellier, votre exposition. Je le disais, c'est le plus simple, c'est de se dire, bon, on a 70 momies, hein, en gros, mm-hmm. et dizaines de milliers de restes humains au musée de l'Homme. Le plus simple, c'est quand même de les faire voir de moins en moins. Ben, vous faites l'inverse. Et vous faites un geste qui est courageux, d'une certaine manière.
Oui, absolument. Oui, on n'était pas sûr que ça ne ferait pas polémique. Mais on a pensé, et je pense, que rendre leur dignité à ces personnes, c'est justement ne pas les laisser moisir dans des réserves ou dans des sous-sols, et c'est leur rendre leur personnalité, leur vie, de restituer leur mode de vie, leur civilisation, etc.
Alors, Mathieu Pot-Bonneville, vous le connaissez évidemment, c'est notre sociétaire, et c'est le directeur du département culture et création du centre Beaubourg. Il nous envoie, vous le savez bien, des cartes postales.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, vous allez me trouver contrariant, mais il suffit que vous consacriez une émission à la momie pour que j'aie envie de vous parler de vampires. D'un vampire en particulier, Nosferatu, tel que le ressuscite en 1979 Werner Herzog, dans une version qui entretient avec le chef-d'œuvre muet de Murnau une relation elle-même étrangement vampirique. Si ce film, mal accueilli à la sortie, vaut d'être découvert et évoqué ici, C'est pour sa séquence d'ouverture, motif qu'il faut entendre au sens propre, puisque pour la tournée, le cinéaste fit ouvrir, une à une, les vitrines qui présentaient aux visiteurs du musée de Guanajuato, au Mexique, les victimes naturellement momifiées d'une épidémie de choléra. 111 momies en tout, 63 femmes et 30 hommes, auxquels il faut ajouter 5 petites filles et 13 jeunes garçons. Conservant un vif souvenir d'une visite effectuée 15 ans plus tôt, Herzog retourna à Guanajuato. Il fit aligner et classer par rang d'âge les momies, de telle sorte que le long travelling qui les parcourt et sur lequel défilent les noms portés au générique semble faire défiler les âges de la vie. Jusqu'à ce que, à leur peau parcheminée, succèdent les ailes parcheminées d'une chauve-souris et que Lucy Harker, sous les traits d'Isabelle Adjani, s'arrache en hurlant à ce terrible rêve. Pourquoi des momies dans un film de vampires ? Suivez-moi, Patrick. Peut-être cette question nous conduira-t-elle, comme à la lueur d'une torche, jusqu'aux fondations les plus secrètes du cinéma. En 1943, le critique André Bazin publiait un article qui devait devenir une référence pour plusieurs générations de cinéastes, du néoréalisme à la nouvelle vague. Intitulé « Ontologie de l'image photographique », cet article situait à la racine de toute œuvre d'art ce qu'il nommait « le complexe de la momie ». Derrière toute peinture, derrière chaque sculpture, il fallait, selon Bazin, reconnaître une forme d'embaumement. Fixer artificiellement les apparences secrètes de l'être, écrivait-il, c'est l'arracher au fleuve de la durée. Selon Bazin, c'est ce désir, ou cette hantise, que la photographie et le cinéma seraient venus parachever, non seulement en restituant les apparences de manière parfaite, mais en laissant la trace lumineuse des êtres se déposer directement sur la pellicule sensible, sans même devoir en passer par le pinceau du peintre. En ce sens, il ne faudrait pas dire qu'il y a des films de momies, comme une sous-catégorie du cinéma fantastique. C'est tout film qui, à chaque séquence, serait la momie de l'instant où celle-ci fut tournée. Admettons, ce que filme Herzog, en longeant d'un pas lent une théorie de corps recroquevillé, ce serait le cinéma. Le cinéma lui-même, comme une longue étagère de formes desséchées dont le présent vivant se serait absenté. Ce qu'il dévoile, ce que dévoile cette scène d'ouverture, c'est la parenté secrète et maudite entre pellicule et bandelette. Mais alors, quelle place occupe-t-il, lui, Herzog, dans ce paysage ? À déranger leur sépulture, comme il a, dans son rôle de cinéaste démiurge, si souvent vidé ses acteurs et ses figurants comme on remplirait des vases canopes, et malmené tant de tournages pour en extraire des films majeurs. Quelle place, sinon celle du prédateur et du faiseur d'éternité? Nous tenons notre réponse, Patrick. S'il faut des momies dans ce film de vampire, c'est que le Nosferatu de Herzog est un autoportrait, et que chaque cinéaste est un suceur de temps.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
La pellicule, c'est une bandelette et la bandelette fait la momie. Dans la culture populaire, on le comprend très bien. Et dans cette exposition, d'ailleurs, il y en a différents exemples. Pour nous, c'est ça, une momie. C'est d'abord, elle est d'abord égyptienne et elle est entourée de bandelettes, hein, Aline Thomas.
Oui, et ce que montre l'exposition, c'est que ça va quand même au-delà de,
bien sûr.
De cette image d'Épinal. Et que, oui, la momie prend en fait énormément de formes.
Énormément de formes, mais enfin quand même, sa forme, disons, dominante dans la culture populaire, c'est celle-là.
Dans la culture populaire, c'est certain. Oui, mais justement, on a voulu montrer qu'il y avait des momies beaucoup plus anciennes que les momies égyptiennes, et qu'il y a des techniques extrêmement variées, donc avec ou sans bandelettes, avec ou sans éviscération, tout ce que vous voulez. Et il y a aussi des motivations qui sont extrêmement variées. C'est pas toujours pour l'éternité, ça peut être temporaire, ça peut être pour le transport, ça peut être pour une espèce de mise en scène sociale, enfin ça peut être vraiment beaucoup de choses.
Alors ça c'est intéressant effectivement, Pascal Sellier, cette question aussi de l'éternité, comme vous dites, parce que notre image égyptienne de la momie, au fond, inévitablement, nous amène à bon, penser au voyage dans l'au-delà. Mais c'est la diversité, en fait, des gestes, des attitudes et des comportements humains, de ce point de vue-là, est tout à fait remarquable. Et est-ce que vous pouvez effectivement nous parler de ces momifications temporaires ? C'est-à-dire le moment où, en fait, c'est quoi l'idée ? C'est que on garde encore un peu l'ancêtre.
On garde un peu l'ancêtre, on le montre, on démontre son pouvoir, son lien dynastique éventuellement. Donc on a par exemple l'exemple justement, enfin sur lequel moi j'ai travaillé des pratiques marquisiennes avant l'arrivée des Européens où la momification est naturelle et en plus elle est temporaire. C'est-à-dire oui. qu'au bout d'un certain temps, on va dire quelques mois, plutôt quelques années, on va inhumer la momie, on va l'enterrer.
C'est-à-dire permettre à la décomposition, et la fait décomposition. De se poursuivre.
Voilà, la décomposition va reprendre, se poursuivre, et après il y a tout un tas de pratiques de reprise d'une partie des ossements, etc. Mais la momification elle-même, c'est le premier stade, et c'est un stade qui est uniquement temporaire. Oui.
De toute façon, on parle de mort extraordinaire.
Absolument.
Aline Thomas, faut jamais l'oublier. Si on revient à l'homme Chachapoya, c'est peut-être pas un roi, mais c'est un grand personnage. Et puis, il fait partie de ces quelques morts exceptionnelles qui sont mis devant nous, et un petit peu en haut, dans leur sarcophage. Il faut quand même revenir à cette question qui est votre question, celle oui. de la domination.
Socialement, ces morts sont minoritaires. Ce oui. traitement mortuaire, cette momification et leur installation dans des sarcophages individuels, chacun représenté par une tête anthropomorphe. Donc on a quelque chose qui vraiment signifie l'individu. Ça reste rare par rapport à l'ensemble des gestes funéraires. On a d'autres momies dans d'autres contextes collectifs, ce qu'on appelle les chulpas, qui sont des sortes de maisons construites à destination des morts, comme une sépulture qu'on ouvre et qu'on ferme régulièrement au gré des défunts, enfin des décès. Mais on a aussi un certain nombre d'individus qui sont inhumés et qui, avec un décharnement naturel en pleine terre, dans des fosses, à proximité des habitations, sous les maisons, etc. Et qui donc ne sont pas du tout traités de la même manière que ces individus. Donc on suspecte quand même un statut social supérieur pour ces individus inhumés, enfin momifiés et présentés dans ces sarcophages à flanc de falaise.
Et la question du genre, je disais tout à l'heure que c'était une de vos perspectives de recherche. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, c'est précisément l'enjeu d'une thèse en cours d'Elisa Dieudonné, qui est encadrée par Nicolas Göpfer et moi-même. Donc, ces travaux portent justement sur cette question, sur comment ces pratiques funéraires donc très variées, qui occupent des espaces très variés dans le paysage, à la fois dans des espaces dédiés aux morts et puis dans des espaces qui cohabitent avec les vivants, comment le sexe biologique intervient et est-ce que la question reste posée,
oui.
elle est en cours de travail avec tout un travail sur les restes osseux justement. Est-ce qu'on a un traitement différentiel entre les hommes et les femmes ? Est-ce que certains traitements sont réservés à une catégorie de population ? Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le statut sanitaire de ces individus, avec l'âge de ces individus ? Voilà.
Pascal Cellier, dans la théorie des momies qui sont, comme le disait Mathieu Pot-Bonneville, alignées au Musée de l'Homme, il y a aussi cette question de l'aristocratie et jusqu'au XIXe siècle de cette momification souveraine, jusqu'au mausolée de Lénine.
Oui, tout à fait, c'est plus une question sociale qu'une question de genre, là,
oui.
effectivement, puisque il y a la question du pouvoir. Eva Perón a été momifiée.
Vous allez jusqu'au portrait posthume, puisque on peut également momifier temporairement pour.
Oui, au 19e siècle, on va dire dans la bonne bourgeoisie. Alors là, c'est pas l'aristocratie. Il y a une espèce de de mode ou de folie de la conservation. Donc ça va concerner effectivement les masques funéraires, on va les mains, on va conserver les cheveux, faire des tableaux de cheveux, des bagues avec les cheveux. On va faire ces photographies extrêmement morbides de morts en position de vivants. Donc là, on expose la photographie d'une femme qui fait de la broderie, mais en fait, elle est morte. Et il y a aussi des exemples d'enfants morts dans les bras de leur mère, etc. Et on va conserver aussi les corps à ce moment-là avec des procédés chimiques, on va dire, relativement modernes.
Bon, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur la culture populaire, alors je vais en remettre un, coup. On va écouter un extrait de The Mummy de Carl Fröhn de 1932.
Les viscères n'ont pas été retirés. La cicatrice habituelle faite par les embaumeurs n'est pas là.
Oui, je sais.
Enfin, je m'en doutais. J'ai eu le temps de l'étudier en faisant ces photographies. Je n'avais jamais vu une momie comme celle-là. Moi non plus, et personne d'autre, j'imagine. On dirait qu'il est mort d'une façon particulièrement désagréable. Vu la tension des muscles, il a sûrement été étranglé par les bandelettes. Enterré vivant. Peut-être bien que nous aurons la réponse dans cette boîte.
Je vois que je n'obtiendrai rien de vous tant qu'elle ne sera pas ouverte, alors allons-y. Sortez la boîte et mettez-la ici. Mort et châtiment éternel pour quiconque ouvrira ce coffret. Avertissement du roi Amon-Ra, le roi de tous les dieux.
Remettez-le où vous l'avez trouvé.
Boris Karloff, évidemment, dans The Mummy, 1932, ça c'est vraiment le genre est posé.
Oui, on peut dire ça. Oui, avec ce côté, voilà, fascination, répulsion,
malédiction,
bien sûr.
Ça va, vous dormez bien, Pascal Cellier, après avoir.
Je dors très bien. Oui.
Bon, bah tant mieux, mais parce que non, mais c'est sérieux en fait, Nadine Thomas, parce qu'on parlait des émotions contradictoires. Il y a effectivement, voilà, tout ce qui fait obstacle au fond à la description anthropologique, artistique et historique que vous faites des corps momifiés. C'est-à-dire cette culture populaire, en somme. Mais vous ne banalisez pas cette question. C'est-à-dire que, évidemment, on n'en est pas à la malédiction des pharaons, mais il y a une gravité, quand même, je trouve, émotionnelle dans votre démarche et dans cette exposition, Aline Thomas.
Oui, l'idée était d'aborder les choses de manière assez sobre, neutre, scientifique aussi.
Oui.
C'est une approche... c'est aussi, je pense qu'on partage un peu aussi cette impression avec Pascal, c'est qu'on aborde ces vestiges de manière très scientifique depuis des années. Peut-être on s'éloigne un peu de cette première émotion. Et cette mise en exposition, trouve un équilibre, en tout cas, entre l'aspect neutre, froid, scientifique, et quand même une approche contextualisée, un peu plus chaude. Quoi.
Réhumaniser, c'est aussi en faire un objet de connaissance. C'est pas nécessairement imaginer des vies qu'on ne pourra jamais atteindre, c'est aussi dire ce chemin de savoir, parce que c'est lié.
Oui, c'est vrai, oui, complètement, mais c'est quand même, d'une certaine façon... c'est étudier les morts pour reconstituer la vie, quoi.
Oui.
C'est pas donc dans toutes ces dimensions avec tout on va dire l'arsenal scientifique qu'on peut mettre en œuvre, mais c'est quand même ça le on va dire le but ultime, effectivement. Donc c'est aussi quand même leur rendre leur personnalité pas forcément individuelle, mais aussi quelque chose de collectif, de social, le mode de vie, leur civilisation.
Et c'est pour ça que, au-delà de cet imaginaire qui plonge la momie dans les terreurs de l'enfance, elle parle de nous terriblement. C'est ce que Jean-Louis Murat chantait déjà en 1993, La momie mentalement.
La même ordure, même amant. Même gerçure, même sang. La même étude, même chantier. Même devise, même cruauté. Même destin.
Même vermine, même sang, et de la condition humaine, vous dis-je, dont on parle, et aussi de la question de la dignité, hein, c'est ça ? Bonjour Julia Pouma.
Bonjour Patrick Boucheron. Afin de poursuivre la réflexion sur les questions de déontologie et d'éthique que pose l'exposition de restes humains dans les musées, cher Patrick, je voudrais vous proposer de faire un pas de côté et de nous rendre dans l'archipel de Stockholm.
Pour voir quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans l'archipel scandinave ?
Un navire, nommé Vasa. Aux dimensions imposantes, plus de 50 mètres de hauteur. Il a coulé dans le port de Stockholm à l'été 1628 et on ne l'en a extrait que dans les années 1960. Tout ce qui a été retrouvé à bord a été étudié. La qualité des données historiques issues de ces recherches, la volonté de les présenter de manière didactique ont conduit à l'édification d'un musée qui lui est entièrement dédié, sur l'île de Djurgården, ouvert en 1990. Dans ce musée, à l'architecture et aux parcours originaux, le navire est présenté au centre de la structure. Le visiteur peut en faire le tour en descendant de pont en pont. Les étages du musée correspondent aux 7 niveaux du navire. Ils illustrent là la reconstruction de son appareil décoratif sculpté, ici le matériel de bord technique et logistique, enfin. Et c'est à cet endroit que je veux vous conduire, dans une pénombre très travaillée qui conduit au recueillement, la muséographie introduit avec clarté et précaution les restes de la trentaine d'êtres humains qui ont été trouvés à bord et à proximité du Vasa lors de plongées archéologiques sous-marines. Les premières analyses ostéologiques ont permis d'isoler les individus les uns des autres en recomposant leur squelette, en établissant leur taille, leur état de santé, leur âge. Depuis le début des années 2000, des analyses ADN permettent d'établir de nouvelles connaissances sur ces défunts. Au printemps 2023, il a ainsi été possible d'identifier l'un d'entre eux comme une femme, son génome ne comportant pas de chromosome Y.
Et alors quel choix a pu faire le musée pour représenter les restes de ces défunts ?
J'ai été frappée, quand j'ai visité cette section du musée il y a quelques années, cher Patrick, par le soin avec lequel elle avait été pensée. Le parcours de visite s'y achève. Après un itinéraire muséal tout en suspension, on retrouve ici le contact avec le sol. On touche terre. Les panneaux disent explicitement que le lieu est aussi pensé pour donner à ces individus une sépulture. Chacun d'entre eux bénéficie d'un espace à soi, Les restes du squelette sont présentés dans une vitrine en forme de sarcophage. Les cartels racontent ce que l'archéologie permet de reconstruire de chaque histoire. Les couvre-chefs, les vêtements, les chaussures qu'ils portaient. Pour certains, leur visage a été reconstitué grâce aux données issues des analyses ADN. La lumière tamisée, leur dépouille, l'évocation de ce qu'ils ont pu être de leur vivant via leur buste de cire, tout concourt à les réhumaniser. Les sources écrites n'ont permis d'identifier qu'un seul d'entre eux, le capitaine, Hans Jonsson. Les autres sont anonymes. Lors de la première analyse ostéologique des années 1960, il s'était vu attribuer des initiales. Dès la deuxième analyse, datant des années 1980, le choix est fait de leur attribuer des prénoms. A devient Adam, B devient Beata, etc. Ce qui se joue au rez-de-chaussée du Vasamuseet de Stockholm, c'est ce moment où des équipes de scientifiques et de conservateurs des 20e et 21e siècles voient, dans ceux dont ils étudient les restes corporels, une commune humanité. Ils délimitent un périmètre où le musée est aussi le lieu d'un rite funéraire d'un genre nouveau. Peu importe si plus de 350 ans se sont écoulés depuis que la mer les avait engloutis, il n'est jamais trop tard pour honorer un défunt. Par ce geste, universel s'il en est, cher Patrick, on affirme la dignité et l'humanité de celui qui n'est plus, et en creux, sans doute autant, la sienne propre.
Merci Julia Pouma. C'est vrai que Aline Thomas, c'est cette question qu'on se posait. Jamais un musée ne sera une sépulture, et pourtant, ils ont des vitrines à soi. Une manière, vous l'avez dit et redit, mais c'est ça le plus important, de les ramener dans l'humaine condition qui est la nôtre, qui n'est pas simplement celle des cultures juxtaposées.
Oui, notre démarche en tout cas n'est pas funéraire au musée de l'homme. En tout cas, on n'était pas dans cette démarche-là, ce qui est tout à fait... ça m'interpelle beaucoup cette présentation, tenter de restituer une sépulture dans cette démarche muséale.
D'ailleurs, vous parlez moins de sépulture que de rituel, Julien Pouma. C'est ça, en fait.
Oui,
c'est la visite comme forme de recueillement, ce qui est très, très exactement mis en espace.
C'est des formulations très prudentes, très équilibrées. Ils font très attention à mettre la science au premier degré, mais par exemple, ils ont trouvé deux squelettes enchevêtrés et ils ont déterminé, un peu comme ces images qu'on a de Pompéi, qu'en fait, c'était deux personnes qui se sont enlacées l'une l'autre sentant qu'elles allaient mourir, par exemple.
Oui.
Donc c'est aussi cette humanité-là, trouver ce juste équilibre, peut-être un peu différent de celui de l'expo, mais où il y a de l'humain. On ne peut pas se contenter du scientifique dès lors qu'il y a des restes humains.
Et puis de toute façon, Pascal Sellier, votre si belle exposition, elle s'inscrit dans le nouveau parcours du musée de l'homme, qui n'est plus un musée ethnographique des cultures humaines, mais qui est un musée de l'homme, c'est-à-dire qui prend le pari de l'universel, en somme, puisque ce qui est mis en scène, c'est voilà, où sommes-nous, où allons-nous, et quelle est le commun devenir de l'humanité.
Oui, tout à fait. On va dire que c'est quelque chose qui renvoie à la variabilité humaine dans toutes ses dimensions, à la fois biologique et culturelle.
Donc les momies, c'est pas les autres. C'est pas que les autres.
C'est pas que les autres, et c'est pas que des vestiges biologiques. C'est aussi des archives culturelles.
C'était Allons-y voir, merci à vous trois, Aline Thomas, Pascal Sellier et Julia Pouma. Les références de vos expositions, de vos parutions, de vos catalogues, de vos articles sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Anthony Thomasson et à la réalisation Delphine Keravec. Merci à vous toutes et tous.